Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Menachot, page 94, Daf Tzadik Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Bechayim ou Beshrutim, le balancement est effectué soit sur des animaux vivants, comme pour les moutons offerts par le public en tant que Korban Shlamim à l'occasion de Shavuot, ou le Korban Hacham offert par le lépreux, ou Beshrutim, et aussi sur des parties de sacrifice après qu'ils ont été sacrifiés, comme pour le Korban Shlamim. Tandis que le fait de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier existe que pour des animaux vivants. Ou Bedavar, chez Eshboruach Chaim, le balancement existe soit pour des choses qui ont un souffle de vie, donc des animaux qui ont eu un souffle de vie, comme nous l'avons expliqué, ou Bedavar, chez Eshboruach Chaim, et même aussi pour des choses qui n'ont pas de souffle de vie, donc des choses inertes, comme les pains offerts par le public à Shavuot, ou les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, et ceux qui accompagnent les sacrifices de l'abstinent. Machen ken besmicha, ce qui n'est pas le cas pour le commandement de la smicha, du fait de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier, qui n'existe que pour des animaux vivants, et non pas pour des choses inertes. On l'a vu donc dans la Mishnah, que pour le commandement de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier, tous les associés pour l'offrande du sacrifice doivent participer à ce commandement, donc chacun à son tour devra s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier. La Gemara dit là-dessus, Tanoura Banan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Lorsque le Passouk dit dans Vaikra Gimel, concernant l'offrande du Korban Shlamim, Korbano, son sacrifice, comme nous l'avons expliqué plus haut d'Avtzale Gimel, ce terme est en plus. C'est pour nous enseigner les rabot kolbalé korban l'esmicha, pour inclure tous les propriétaires du sacrifice pour ce commandement de la smicha de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier. Donc, comme nous l'avons dit, chacun des associés devra à son tour s'appuyer de toutes ses forces sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier. Chez Achol, car il aurait été possible de présenter l'argument vers Alodinu. Pourtant, il y a un raisonnement a fortiori qui est le suivant. Umat nufa, si déjà en ce qui concerne le commandement du balancement pour certains sacrifices, Shenit Rabta Beshrutim, qui a été étendu même aux sacrifices qui ont déjà été sacrifiés, Mitmata Bechovrim, a été réduite lorsqu'il s'agit de plusieurs associés, et comme nous le verrons, un seul des associés effectue le balancement et non pas tous les autres. Smicha Shenolit Rabta Beshrutim, le fait de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier, qui n'a pas été étendu au stade du sacrifice qui a déjà été sacrifié, Enodin Shetit Maed Bechovrin, n'est-il pas évident qu'elle sera réduite aussi en ce qui concerne les associés, et seul un des associés devra effectuer ce commandement de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier? Talmud Lomar Korbano, c'est pour cela que le Pasuk emploie le terme de Korbano, son sacrifice, les rabot kolbale korban l'esmicha, pour inclure tous les propriétaires du sacrifice pour ce commandement de s'appuyer sur la tête du sacrifice avant de le sacrifier. En effet, chacun des associés et le propriétaire du sacrifice. Alors la Gemara demande, Vetit Rabet Nufa Bechovrim, on n'a qu'à étendre le commandement du balancement en ce qui concerne les associés, et dire donc que chacun des associés devra participer à ce balancement, Mikal Bachomer, et cela en l'apprenant par raisonnement a fortiori, qui est le suivant, Umas Micha Shelonit Rabta Bechutim, si déjà le fait de s'appuyer sur la tête du sacrifice, qui n'a pas été étendu au stade où le sacrifice est déjà sacrifié, Mitrabta Bechovrim, a été étendu dans le cas d'associés. Chacun des associés doit participer à ce commandement. Knufa Shnit Rabta Beshrutin, le commandement du balancement qui a été étendu au stade où le sacrifice a déjà été sacrifié, Enodin Shnit Rabta Bechovrin, n'est-il pas évident qu'elle sera étendue aussi en ce qui concerne les associés et que chacun des associés devra participer au balancement? L'agma répond, Mishum de Loefchar, la raison pour laquelle seul un des associés effectue le balancement et pas tous les associés, c'est parce qu'il est impossible de faire autrement. Car Hechili Avid, comment pourra-t-on faire? L'infu kulhu be'adade adade, si on dit que tous les associés effectueront le balancement ensemble, en tenant ensemble les parties de sacrifice qui devront être balancées, ils mettront donc chacun les mains sous les mains des autres. Askabia Khatitsa, les mains supérieures qui sont en contact direct avec les parties du sacrifice feront écran avec les mains inférieures qui se trouvent en dessous, car elles ne touchent pas directement le sacrifice, il n'y aura pas toujours suffisamment de place pour placer les mains les unes à côté des autres. Il est vrai que le Kohen place ses mains sous les mains du propriétaire pour effectuer le balancement. Cependant, le Kohen, lui, n'est pas propriétaire. Et le balancement concerne essentiellement le propriétaire. Et aussi, comme l'explique le Tosfot dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Vav, puisque la Torah a exigé que les deux effectuent le balancement ensemble, il n'y a pas de chatzitza. La main du propriétaire n'est pas considérée comme faisant écran entre la main du Kohen et les parties du sacrifice. L'iniv, v'liedar v'liniv. Et si tu dis qu'il effectue le balancement, donc un seul des propriétaires effectue le balancement, puis après le deuxième effectue le balancement après lui. Tnufa amarachmana. La Torah a parlé d'un seul balancement, velot nufot, et non pas plusieurs balancements. Alors, puisqu'il est impossible que tous les associés participent à ce balancement, nous concluons que la Torah n'a exigé qu'un seul des propriétaires ou des associés pour effectuer le balancement. La Gemara demande, Usmicha Beshrutin l'État, n'existe-t-il pas de cas où on effectue le fait de s'appuyer sur le sacrifice après qu'il a été sacrifié? Ve'atnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Tamid, Daf Lamed Gimel Amud Bet, Bizman, chez Kohen Gadol, Rotzel Aktir, lorsque le Kohen Gadol veut offrir des parties du sacrifice, par exemple, du Korban Tamid, du sacrifice journalier, sur l'autel pour les brûler, il a le droit de le faire quand il le veut, sans tenir compte du tirage au sort qui a été effectué. Haya ole bakebesh, il monte par la rampe d'accès à l'autel, behasgan bimino, et le vice Kohen Gadol se trouve à sa droite. Higia le machatzit akebesh, lorsqu'il arrive à la moitié de la hauteur de la rampe d'accès de l'autel, achaz sgan bimino, le vice Kohen Gadol le tient par la main droite, vehelahu, et l'aide à continuer à monter. Lorsqu'il arrive au sommet de la rampe d'accès à l'autel, Vehoshitlo Harishon Harosh Varegel, et le premier qui se tenait en haut de la rampe de l'accès à l'autel avec la tête et le pied droit du sacrifice, lui tend donc cette tête et le pied droit du sacrifice, Somer Haleem, il s'appuie dessus, Vezorkan, et il les jette sur le bûcher. Hoshit Hasheni Larishon Shteadaim, le deuxième qui tenait les deux pattes avant, les transmet au premier qui se trouve au sommet de l'autel, notno le Kohen Gadol, et le premier les transmet au Kohen Gadol, somech alehen, et il s'appuie sur eux, vezorkan, et il les lance sur le bûcher. Nishmat hasheni ve'alachlo, le deuxième qui a terminé son service se retire et s'en va, vekach hayu moshitin lo shar kol ha'evarim, et ainsi on lui transmettait les autres membres, donc celui qui tenait les différents membres du sacrifice les transmettait au premier, qui lui à son tour les transmettait au Kohen Gadol, somech alehen, et il s'appuyait dessus, vezorkan, et il les lance sur le bûcher, ou bizman shehu rotze, et lorsque le Kohen Gadol le voulait, ou somech, il pouvait se contenter de s'appuyer sur les parties du sacrifice qu'il a reçues, vacherin zorkim, et ce sont les autres qui les lancent sur le bûcher de l'autel. En tout cas, nous voyons qu'il existe des fois où on s'appuie sur une partie du sacrifice, même après qu'il a été sacrifié. L'Agma répond, Amar Abaye, en fait, il n'existe nulle part où la Torah a exigé qu'on s'appuie sur une partie d'un sacrifice après qu'il a été sacrifié. Mais Hatam, là-bas, ce que nous voyons dans la Mishnah dans Masechet Tamid, Mishum Kvodo de Kohen Gadol, c'est uniquement en l'honneur du Kohen Gadol. C'est-à-dire, il a été institué que le Kohen Gadol s'appuie sur les différentes parties du sacrifice avant de les offrir sur l'autel, en son honneur, pour faire en sorte que lorsqu'il effectue ce service d'offrir les parties du sacrifice sur l'autel, ce service a plus de valeur que s'il avait été effectué par un simple Kohen. Hadran alar shtemidot, nous avons fini ici l'étude du 10e chapitre de Masechet Menachot. Nous commençons l'étude du 11e chapitre de Masechet Menachot, qui traite essentiellement des lois concernant les deux pains spéciaux offerts à Shavuot et les pains que l'on place chaque semaine sur la table du sanctuaire. Nous verrons donc leur taille, leur forme, quand est-ce qu'ils sont fabriqués. Et en ce qui concerne les pains que l'on place chaque semaine sur la table du sanctuaire, nous verrons comment est-ce qu'ils sont posés et comment est-ce que cela est effectué. Alors la Mishnah dit, « Shteh alechem niloshot achat achat » Les deux pains spéciaux offerts à Shavuot sont pétris un à un, « Benefot achat achat » et ces pains sont cuits un par un, donc on fait rentrer un pain à la fois au four pour qu'il cuise. Par contre, l'echem apanim, les pains que l'on place chaque semaine sur la table dans le sanctuaire, niloshot achat achat, sont pétris un par un, venefot shtaim shtaim, mais on les met deux par deux au four pour les cuire. ובדפוס היה עושה אותם, et il les formait dans un moule car ils avaient une forme particulière comme nous le verrons par la suite, כשהוא רודן, lorsqu'il les retirait du four, נותנן לדפוס, il les plaçait dans une autre forme, כדי שלא יתקלקלו, afin qu'ils ne s'abîment pas, jusqu'à ce qu'on les place sur la table dans le sanctuaire. Nous avons vu dans la Mishnah donc que les pains spéciaux offerts à Shavuot étaient pétris un par un et cuits un par un, tandis que les pains qui étaient placés sur la table dans le sanctuaire étaient pétris un par un, mais ils étaient cuits deux par deux. Alors la Gemara demande, mais Nan Emile, d'où sait-on ces choses-ci? La Gemara répond, de Tanoura Banan, Karno Chachamim, ou enseigné dans une Braïta, qui interprète le Passouk dans Vaikra Kaf Dalet, concernant les pains que l'on plaçait sur la table dans le sanctuaire. Le Passouk dit, Shne Sonim Yihye Hachala Ha'echat. Chaque pain sera constitué de deux Issaron, donc deux dixièmes de Hefa, soit environ 6 kilos. Alors ce terme Ha'echat, qui est en plus, nous enseigne, Melamed Shenil Loshot Achat Achat, que ces pains étaient pétris un par un. Minaim Shav Shte Alechem Kach, d'où sait-on qu'en ce qui concerne les deux pains spéciaux offerts à Shavuot, il en est de même, donc ils doivent être pétris un par un. La Breta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, Yihye, il sera, ce terme est aussi en plus, pour étendre cette prescription pour un autre endroit où on fabrique des pains, donc en ce qui concerne les deux pains offerts à Shavuot. Uminaim Shafiatan Shtaim Shtaim, et d'où sait-on que leur cuisson était effectuée deux par deux, donc on les cuisait deux par deux. La Breta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, Besamta Otam, et tu les placeras sur la table. Dans notre contexte, ce passage du Passouk est interprété pour dire que lorsqu'ils seront placés quelque part, ou la première fois qu'ils seront placés quelque part, ils seront au pluriel. Donc, lorsqu'on les place dans le four, ils devront être à deux. Yachol Avshte Alechem Ken. Serait-il possible de dire qu'il en est de même pour les deux pains, qu'ils seront donc cuits deux par deux? Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit Otam, qui veut dire eux. C'est une restriction qui veut dire que seuls les pains spéciaux que l'on place sur la table dans le sanctuaire sont cuits deux par deux, mais pas les autres pains. La Gemara demande, Hai Otam Ha Afikte. Pourtant, le terme Otam, tu l'as déjà utilisé pour apprendre qu'ils sont cuits deux par deux. La Gemara répond, Imken. Si c'est ainsi, si le Passouk voulait uniquement dire cela, les Makra, le Passouk aurait pu s'exprimer en disant, Vesamtam, qui voudrait dire aussi, tu les placeras. Le Passouk ici aussi se serait donc exprimé au pluriel, et on aurait compris que la première fois où ils sont placés quelque part, donc dans le four, ils seront à deux. Mai Vesamta Otam, que veut dire le Passouk lorsqu'il s'exprime en disant, et tu les placeras? Le terme Otam est écrit séparément. Shmat Mine, Tarte, tu peux apprendre de là deux choses. Aussi que le Passouk veut exclure les deux pains spéciaux offerts à Shavuot, qui eux ne seront pas cuits deux par deux, mais plutôt un par un. Tanou Rabanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Lorsque le Passouk dit dans Vaikra Kavdalet Vesamta Otam, et tu les placeras, comme l'explique le Tosfot, le terme Vesamta veut exprimer le fait de mettre dans quelque chose, veut nous enseigner que Bedfus, on met ses pains dans un moule. Shloshat Fusinhen, il y avait trois moules, ou trois sortes de moules pour ces pains. Notna ledfus da'dain hibatsek. D'abord, on met les pains dans le moule alors qu'elle est encore à l'état de pâte, donc pour former les pains. Ukemin dfus hayalah batanur. Et il y avait aussi une sorte de moule dans le four, donc qui était chauffé en même temps que le four. Et comme l'explique le Tarat HaKodesh, c'est la raison pour laquelle il fallait d'abord former les pains dans un moule, pour ensuite le mettre dans le moule chauffé après que le pain a été formé. Et lorsqu'il sort les pains du four, il met le pain dans un moule, afin que le pain ne s'abîme pas. La Gemara demande, on n'a qu'à remettre le pain dans le premier moule, pourquoi a-t-on besoin d'un troisième moule? La Gemara répond, une fois qu'on a cuit le pain, nafra, le pain a gonflé un petit peu, car comme l'explique le Tarat HaKodesh, même si ces pains sont cuits dans les moules, ces moules ne sont pas entièrement fermés. Ils étaient en effet ouverts sur les côtés. Par conséquent, pour conserver ces pains, il fallait des moules plus grands pour ne pas qu'ils se brisent sur les côtés où ils auraient gonflé. La Gemara va maintenant expliquer la forme du Lechem Apanim. Pour cela, nous ferons d'abord une petite introduction. D'abord, l'expression Lechem Apanim veut dire du pain avec des facettes, plusieurs facettes. Il ne peut donc pas s'agir d'un pain plat, mais plutôt avec les bords relevés, de manière à avoir plusieurs facettes. En plus, la Mishnah dit plus loin Daf Tzadevav qu'à l'origine, il formait avec la pâte une espèce de rectangle de 10 tfachim de long sur 5 tfachim de large, soit environ 96 cm de long sur 48 cm de large. Comme la Mishnah l'explique, puisqu'il y avait deux rangées de pain, la longueur de ces pains était placée sur la largeur de la table. Donc la longueur de ces pains dépassait cette largeur de la table, il fallait impérativement relever les bords pour faire correspondre la taille du pain à celle de la table. Autre point, la Gemara dans Maseret Psachim Daf Lamed Zayin dit que l'épaisseur de ces pains était de 1 tefar, soit environ 9,6 cm. Le Tshuvot Tashbetz Chelek Alef Siman Kuf Lamed Dalet pose la question suivante au nom du Ralbag. Il dit qu'étant donné le volume de la farine, qui était 2 hissaron, ce qui correspond environ à 8333 cm3, si nous divisons ce volume avec la taille du pain qui est donnée dans la Mishnah plus loin d'Af Tzadevav, donc en divisant ce volume de 8333 cm3 par 96 cm puis par 48, qui correspondent à la longueur et la largeur du pain, il nous reste 1,8 cm environ, qui est l'épaisseur maximum de ce pain. Cette épaisseur d'1,8 cm correspond environ à l'épaisseur de 3 quarts d'un doigt. Il répond à cette question en mentionnant Rashi sur la Gemara dans Maseret Psachim Daf Lamed Zayin que seuls les bords relevés avaient cette épaisseur, mais le reste du pain était en effet beaucoup moins épais. En tout cas, c'est ainsi que nous arrivons à la forme d'un pain qui a plusieurs facettes. En la Gemara dit, Itmar, il a été enseigné une discussion. Lechem hapanim ketsad osinoto, comment est-ce qu'on formait le lechem hapanim, ces pains que l'on plaçait sur la table dans le sanctuaire?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page d'Av Tzadeh Dalet Amud Bet. La Gemara répond, Rabbi Hanina Amar Kemin Teva Prutza, ce lechem apanim était formé comme une boîte ébréchée, donc une boîte sans couvercle, dont il manque deux parois. Il reste donc deux parois l'une en face de l'autre. Donc en fait, selon lui, on a pris le rectangle qu'on a formé avec la pâte et on a relevé les deux bords de la longueur, et ce selon les différents avis mentionnés dans la Mishnah plus loin d'Av Tzadevav. Il y aurait donc une hauteur, selon les avis, soit de 2 tefar et demi, environ 24 cm, soit 2 tefar, soit environ légèrement plus que 19 cm. Ces parois, ou peut-être seulement une partie de ces parois, auront une épaisseur de 1 tefar, comme nous l'avons expliqué. Rabbi Yochanan Amar, Kemin Sfina Rokedet, il formait ses pains sous forme de bateau qui tangue. Selon lui, donc, la forme était plus complexe, probablement pour augmenter le nombre des facettes. Selon la suite du déroulement de la Gemara, et en faisant la synthèse de l'interprétation de Tosfot sur l'interprétation de Rashi, selon le Chazon Ish dans Siman Membet et le Yashar Vetov et le Sfat Emet, il semblerait que ce pain était formé de la manière suivante selon Rabbi Yochanan. Lorsqu'ils avaient constitué le rectangle décrit dans la Mishnah plus loin d'Af Tzadevav, ils repliaient les coins vers le centre de manière à former un losange qu'on pliait au milieu, de manière à former deux parois penchées, donc qui montent en diagonale, comme un peu deux triangles qui seraient reliés à la base. Il est possible aussi que les deux parois étaient en fait légèrement arrondies. En tout cas, ce pain n'avait aucune base, puisqu'il se termine en pointe. C'est pour cela qu'il l'appelle comme un bateau qui tangue, car sa forme rappelle la forme d'un bateau. La largeur totale du pain ne pouvait pas dépasser 5 ou 6 tfachim selon les avis dans la Mishnah plus loin d'Av Tzadevav, et sa hauteur ne pouvait pas dépasser 2 ou 2,5 tfachim selon les avis. Donc, il était arrangé de cette manière, et le surplus, donc l'extrémité des parois, était replié à nouveau pour correspondre à ces mesures. Alors la Gemara demande, Bishlama le mande amar kimin teva prutza, on comprend bien selon l'avis qui dit que les pains avait une forme de boîte ébréchée, donc qui avait un fond plat. Haynu de Havuyat Vebizichim, nous comprenons donc où on pouvait poser les coupelles qui contiennent le galbanum. On pouvait les poser sur les pains et ils pouvaient tenir dessus. En effet, ces coupelles étaient posées sur les pains supérieurs de chacune des deux rangées. Et là, les man de Amar Kemin Svinarokedet, mais selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue, donc qui n'avait aucun fond, Hechi Havuyat Vebizichim, comment est-ce qu'on pouvait faire tenir ces coupelles, étant donné que ces pains n'avaient pas de fond? L'Agma répond, « Makom avid lehu, lorsqu'il formait ses pains, il faisait un emplacement, donc un petit endroit plat dans le pain, pour y poser ses coupelles. » L'Agma demande, « Bishlama leman de amar kemin teva prutsa » On comprend bien, selon l'avis qui dit, que ces pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, avec un fond et des parois verticales. Haynu de Havuyat Vekanim, on comprend bien où étaient placées les barres qui avaient une forme de demi-roseau qui servait à surélever légèrement ces pains pour ne pas qu'ils moisissent, car il est vrai qu'ils reposaient aussi sur les parois de la table qui se trouvait dans le sanctuaire, mais ils devaient être aussi soutenus par les parois de ces pains qui, comme nous l'avons dit, avaient une épaisseur d'un tefar pour ne pas qu'ils se plient au centre où ils ne sont pas soutenus. Donc, étant donné que ces pains, selon le premier avis, ont des parois sur toute leur largeur, ces barres peuvent donc reposer sur les parois de ces pains. Et là, le man de Amar Kemin Svinarokedet, mais selon l'avis qui dit que ces pains avaient la forme d'un bateau qui tangue, et comme nous l'avons dit, les parois avaient une forme de triangle, donc le sommet de la paroi était une pointe, Kanim Hechiavuyatve, où est-ce qu'on plaçait ces barres? Qu'est-ce qui pouvait les soutenir? Car en fait, chaque pain était soutenu par trois barres, et selon la forme du pain, seule la barre du centre était soutenue par les parois des pains, mais les deux barres des extrémités n'avaient pas de quoi être soutenues, étant donné qu'à cet endroit, il n'y avait pas de parois. L'Agma répond, Morsha Avid Lehu, il collait un morceau de pâte aux deux côtés du sommet de chaque paroi, et c'est ces morceaux de pâte, donc après leur cuisson, qui soutiendront les barres. Il se peut que, comme nous l'avons dit, puisqu'il fallait replier à nouveau le sommet des extrémités pour que les pains correspondent à la taille requise, comme c'est décrit dans la Mishnah plus loin d'Avtsadevav, le sommet de la paroi était donc plié et étiré de manière à correspondre au nécessaire pour le soutien de ces barres. La Gemara demande, Bishlama le man de Amar, on comprend bien selon celui qui dit Kemin Teva Prutsa que les pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, donc ils étaient plats avec deux parois qui montent verticalement. Haynu de Samchele Snifim Lelechem, qu'effectivement les montants de la table soutenaient les pains. En effet, comme il est expliqué dans la Mishnah plus loin d'Af Tzadevav, sur la table il y avait deux rangées de pains, et de part et d'autre de chacune de ces rangées de pains, il y avait des montants qui arrivaient jusqu'à la hauteur du pain supérieur. Ils avaient des espèces de saillies ou des plots à l'endroit où on devait placer les barres qui étaient posées à la fois sur ces espèces de saillies et sur les pains comme nous avons expliqué précédemment. Et étant donné que les parois de ces pains étaient verticales, on comprend bien donc que ces montants soutenaient ces pains afin que les parois ne s'écroulent pas. Et là, le man de Amar Kemin Svinarokedet, mais selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue. Autrement dit, comme nous l'avons expliqué, les parois n'étaient pas verticales, mais plutôt elles étaient penchées et en diagonale. Hechi Samchele Snifim Lelechem, comment est-ce que les montants de la table soutenaient les parois du pain, étant donné que seul le sommet des parois atteignait ces montants? L'Agma répond, Dagil Lehu Meagal, ils arrondissaient les montants. C'est-à-dire, la base des montants qui, comme nous le verrons par la suite, était posée sur la table, n'était pas simplement verticale, mais la base s'élargissait en forme arrondie, et ce pour soutenir le dessous des parois. Ainsi, à la hauteur de chaque pain, il y avait une bosse, un peu en forme arrondie, qui soutenait partiellement les parois, non seulement au sommet des parois, mais même une partie du reste de la paroi. Le reste du pain était soutenu par les barres, comme nous l'avons expliqué. La Gemara demande Bishlama le manda amar kemin tsfina rokenet. On comprend bien encore selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue, dont les parois étaient penchées. Hainu de bainan snifim. Nous comprenons pourquoi il était nécessaire d'avoir ces montants pour soutenir ces pains, car par le poids des pains supérieurs, ils risquent de se briser. Et là, le manda amar kemin teva putza, mais selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, donc le pain était plat avec deux parois verticales, snifin lamali. Pourquoi avait-on besoin des montants pour soutenir les pains, étant donné qu'on pouvait les poser l'un sur l'autre, et ils pouvaient ainsi rester sans problème, sans avoir besoin d'être soutenus? L'agma répond, agav yukra de lechem, à cause du poids des pains supérieurs, qui, rappelons-le, avaient chacun un poids d'environ 6 kilos, talach, les pains inférieurs se seraient écrasés ou brisés. La Gemara demande, Bishlama, le manda amar kemin tsfina rokedet. On comprend bien, selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue avec des parois penchées. Snifin algabe shulchan munachim. Les montants étaient posés sur la table. Leur base s'élargissait, comme nous l'avons expliqué, pour soutenir le dessous des parois. Et là, le manda amar kemin teva putza. Mais selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, donc ils étaient plats avec des parois verticales. Donc finalement, les pains remplissaient entièrement la table. Snifin, Hechamanach Lehu. Où est-ce qu'on posait ces montants? À Ramanach Lehu. Est-ce qu'on les posait par terre? L'Agma répond, in oui. De Amar Rabbi Abba Bar Mamal, les divrei Haomer Kemin Sfina Rokedet, selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue avec des parois penchées. Snifin, Algabe Shulchan Munachin, les montants étaient posés à même la table. Étant donné que, comme nous l'avons expliqué, la base des montants soutenait le dessous de la paroi, et ainsi de suite, comme nous l'avons expliqué, les divrei haomer kemin teva putza, selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, ils étaient plats avec deux parois verticales, snifin algabe karka munachim, les montants étaient placés sur le sol, et donc, selon cet avis, les montants étaient beaucoup plus hauts. La Gemara demande, keman azla hadamar Rav Yehuda, selon qui va cet enseignement de Rav Yehuda qui dit Halechem ma'amid et asnifin, les pains soutenaient les montants, ve'asnifin ma'amidim et alechem, et les montants soutenaient les pains. L'Agma répond que manda amar kemin sfina rokedet, cet enseignement de Rav Yehuda suit l'opinion de celui qui dit que les pains avaient la forme d'un bateau qui tangue avec des parois penchées. Donc, comme nous l'avons dit, les montants étaient posés sur la table, le poids des pains qui s'appuyaient sur leur base les maintenait en place, et les montants eux-mêmes soutenaient les parois de ces pains, comme nous l'avons expliqué. Tandis que, selon l'avis qui dit que les pains avaient la forme d'une boîte ébréchée, donc ils étaient plats avec des parois verticales, il est vrai que les montants soutenaient les pains, comme nous l'avons expliqué, mais les pains ne soutenaient pas les montants, car ils étaient posés sur le sol.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.